Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi Anne-Marie qui est venue annoncer un événement qui aura lieu à Lucandiwa à partir du 8 mai. Un événement littéraire et politique consacré à l'homme libre Boris Pahor. Anne-Marie, bonjour.
Bonjour Louis, bonjour à tous les auditeurs.
Alors je ne veux pas déflorer tout de suite, on le fera peut-être en fin d'émission, le programme exact de cet événement consacré à cet écrivain slovène. Mais peut-être pourriez-vous commencer tout simplement pour nous expliquer la pertinence de cet événement, la venue de Boris Pahor à Lucandiwa.
Oui, alors, d'abord peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore Monsieur Boris Pahor. Donc c'est un écrivain slovène qui a 101 ans et qui va venir de Trieste, enfin je l'espère, pour l'instant tout va bien, spécialement qui va venir à Lucandiwa. Il va venir en fait sur 3 jours, l'événement va commencer le 7 mai. Donc Boris Pahor est quelqu'un d'une infatigable énergie. Maintenant, c'est un tout petit homme d'aspect très fragile, mais avec une force de conviction assez incroyable, et qui à la fois est un témoin majeur du siècle passé et surtout de tous ses errements, en particulier des 3 totalitarismes qui l'ont ravagé, totalitarisme qu'il a vécu lui directement dans sa chair, dans sa ville de Trieste, dans son identité d'enfant slovène. En même temps, que témoin historique, un des derniers qui nous demeure de ces hommes qui furent résistants et qui furent déportés, Boris Pahor est aussi un écrivain majeur, un écrivain européen de dimension européenne, que nous avons découvert assez tardivement, hélas, mais qui actuellement est sollicité absolument de toutes parts. Et c'est une grande chance qu'il ait pu venir ici, alors qu'il est tellement, tellement demandé par ailleurs. Alors, je disais dimension historique et dimension littéraire. Sur le plan de l'histoire, le petit Boris avait 7 ans, quand il a assisté à l'incendie de la maison de la culture slovène à Trieste, dans le port, incendie en 1920 par les chemises noires de Mussolini. Cet événement, en fait, fut à l'origine des tout débuts de la montée du fascisme, auquel succédera ensuite le nazisme, Hitler. Je l'avais dit précédemment, n'oublions pas que Mussolini fut d'abord un modèle pour Hitler, qui ensuite le dépassa, l'élève dépassa le maître en horreur. Pour son engagement, Boris adulte, son engagement dans la résistance sera arrêté le 24 janvier 1944. Il sera déporté au camp du Struthof. Rappelez aussi que le camp du Struthof était un camp de déportation, un camp de concentration en France, en Alsace, sur le versant alsacien des Vosges. Lesquelles Vosges, il se trouve sur l'autre versant, c'est là où je suis née, et que dans le même temps, sur cet autre versant, eurent lieu des événements historiques tragiques également, qui sont peu connus encore de nos jours. Moins connus que, par exemple, l'histoire du maquis du Vercors, moins connus que le maquis des Glières. En septembre, le 20-21, mais c'est même encore à l'heure d'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont difficiles pour moi, dures à raconter, difficiles à raconter. Il m'est plus facile de parler de Boris Pahor, il m'est plus facile de parler de la résistance au fascisme et au nazisme. Le troisième totalitarisme sera celui du totalitarisme communisme hélas, un idéal, au départ un idéal social, un idéal qui pouvait être considéré comme un bel idéal, va devenir une nouvelle fois un échec de l'humanisme, une humiliation de l'humain et de la liberté de l'homme. Et Boris Pahor va une nouvelle fois se révolter et s'affirmer face à ce troisième totalitarisme. On dit de lui l'homme qui a dit trois fois non. C'est d'ailleurs le titre d'un de ses livres.
Comment a-t-il été en contact avec le communisme, en fait ?
Eh bien, il se trouve que Trieste est à la frontière avec l'ancienne Yougoslavie. Et Trieste est une ville frontière, autrefois autrichienne, dans laquelle il y avait, devait coexister à l'origine une communauté slovène importante et une communauté italienne importante. Et donc, étant à la frontière, Boris était interdit de ses jours, interdit, ses livres étaient interdits, etc. Il a soutenu ses amis qui eux-mêmes étaient du côté slovène et il les a soutenus, il s'est engagé à leur côté.
Il a eu affaire à des commissaires politiques qui l'ont...
Non, puisque par chance, Trieste était du côté italien. Donc, quelque part, ce que je lui avais dit un jour, mais quelque part, c'est l'Italie qui au départ était l'oppresseur, l'Italie qui avait déclaré que la communauté slovène devait être éradiquée, la langue slovène, la culture slovène. Je citais dans les deux dîners d'histoire une phrase qui était parue dans le journal tenu par le frère de Mussolini, qui les comparait à des cafards et des poux à écraser. Et ce qui est paradoxal, mais ce n'est pas l'unique cas de ce type, c'est que celui qui était l'ancien oppresseur est devenu celui qui lui a permis d'avoir la vie sauve et de ne pas être inquiété directement, puisqu'il était citoyen italien, même si son identité et sa culture étaient slovènes.
Toute son œuvre reflète un petit peu ses prises de position, ses attitudes fondamentales contre toute forme de totalitarisme.
Alors là où nous sommes dans le second versant, la seconde dimension, qui est une dimension littéraire, il faut dire qu'en plus ce n'est pas un simple témoin, ce n'est pas quelqu'un qui va se contenter de décrire, ni même de réfléchir, mais c'est un véritable écrivain. Il a une langue très poétique, que la traduction en français ne rend pas toujours pleinement. Il a un imaginaire riche, une grande culture, et ses ouvrages sont sous une forme romancée. Je crois qu'il y a 8 actuellement de ses romans qui sont traduits en français. Et sous une forme romancée, ses ouvrages sont à chaque fois une description, je dirais presque clinique, très très précise, d'événements réels, comment les individus sont confrontés dans leur vie, dans leur chair, dans leur affection, dans leur parentalité, comment ils sont confrontés à un régime totalitaire.
Il a consacré une abondante littérature ou combien de livres a-t-il pu écrire sur le sujet ?
Peut-être, sans engagement de ma part, peut-être une trentaine. Peut-être je me demande s'il n'y a pas une trentaine de romans.
En tout cas, ça l'a fortement travaillé pour qu'il en écrise 30.
Comme tous les déportés, je crois qu'il y a des choses que l'on va porter en soi tout au long de sa vie. Toute la question, c'est d'abord comment survivre à l'intérieur du camp. Là, je vous renvoie également aux émissions qui ont été enregistrées où je citais justement des descriptions de l'anéantissement total de toute humanité dans l'homme. Donc comment déjà survivre à l'intérieur du camp et qu'est-ce qu'il va rester si l'on est survivant physiquement? Comment ensuite reprendre pied dans la vie lorsque l'on a vécu cette déchéance totale de l'humanité? Comment est-ce que l'on pourrait encore avoir un minimum de foi en l'homme, un minimum de foi dans la vie, dans l'existence, un sens à la vie? Il ne faut pas oublier que beaucoup de survivants se sont ensuite... suicidé. C'est-à-dire dans un processus, je suis de formation psychologue et de formation psychanalytique, un processus quelque part, qui rappelle beaucoup l'identification à l'agresseur. C'est-à-dire que le vœu, ce n'est même pas un vœu de mort, c'est un vœu d'anéantissement total qu'un autre a prononcé un jour contre vous et que l'on va accomplir contre soi, malgré le temps. Par exemple, et malgré tout ce que l'on a pu faire, ce que l'on a pu dire, la culture, parce qu'on parle beaucoup de la culture, contre la barbarie, ce fut d'ailleurs l'engagement de toute la vie de Boris Pahor, qui lui n'a cessé de résister, jamais avec un fusil et toujours avec sa machine à écrire. La culture elle-même ne suffit pas contre la barbarie. Donc comment survivre? Primo Levi, qui est une des grandes figures justement de déportés, qui nous a laissé des textes remarquables d'humanisme, en particulier le plus connu est « Si c'est un homme ». Primo Levi a fini par se suicider. Il habitait à Turin, je crois, et il s'est jeté dans l'escalier. Mais il n'est pas le seul. Jean Améry s'est suicidé. Paul Celan, qui était un grand poète, qui n'a pas connu la déportation, mais dont les parents, et la mère en particulier, ont été abattus d'une balle dans la nuque par les Einsatzgruppen au moment où il y avait ces exécutions de masse sur le front de l'Est, donc en Roumanie. Enfin, actuellement, c'est en Bessarabie qui n'est plus vraiment, n'appartient plus... À la Roumanie, lui-même s'est suicidé.
En fait, dans ses livres, il cherche à savoir comment résister à cette pression externe.
Il ne cherche pas à savoir comment résister parce que je crois que c'est quelque chose qui s'impose. Dans certaines situations, dans certaines circonstances, c'est une question de vie ou de mort. Il y a des actes, des paroles qui s'imposent à nous. Parce que non seulement Boris Pahor, mais tous les anciens déportés, ceux qui ont survécu, ont à cœur justement de transmettre. D'ailleurs, parfois, ce qui leur a permis de transmettre, c'était d'avoir justement ce statut de témoin pour dire les choses. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que les nazis, au moment de la débâcle, au moment de l'avancée alliée, ils ont essayé d'exécuter tous les témoins, de faire disparaître toutes les preuves concrètes de l'abomination. Ils n'y ont pas réussi, heureusement, mais même s'ils n'y ont pas réussi, malgré tous ces témoignages de ceux qui survivaient, je pense par exemple à Zoran Boris Pahor était un écrivain. Robert Antelme était aussi un écrivain. Robert Antelme, le français, ex-amant, mari de Marguerite Duras. Mais par exemple, Zoran Muzic, qui est un peintre, lui résistait en peignant au péril de sa vie, parce qu'il devait cacher ce qu'il peignait. Il y a toute une série de peintures qui s'intitule « Nous ne serons pas les derniers ». Zoran Muzic est slovène, c'est un compatriote de Boris Pahor, ils se connaissaient. Je vais vous citer un texte d'un ancien déporté qui s'appelle Roger Monir. Ça s'appelle « Un appel aux jeunes ». Parce que à quoi ça servirait de ressasser ces histoires qui en plus sont des histoires horribles? Pourquoi ressasser tout cela? Sinon, dans l'espoir que les gens, les jeunes, les générations suivantes comprennent et dans l'espoir que cela ne se renouvelle pas. Un espoir, il faut être lucide. Par exemple, Boris Pahor est très lucide. Ceux qui ont survécu sont aussi très attentifs à tous les événements de l'actualité que l'on peut décrypter sans problème. Alors, je vais vous lire l'appel aux jeunes de Roger Monir qui s'appelle « N'oubliez pas ». Cet appel date du 3 mars 1991. À l'heure actuelle, je crains fort que Roger Monir ne soit plus là. Donc, il explique « Depuis mon retour, j'ai voulu sans cesse témoigner auprès des jeunes générations par des débats avec les élèves, dans les collèges et les lycées. Des passages de films sur la déportation, comme par exemple « Nuit et brouillard », le film d'Alain René, le magnifique film d'Alain René, où on voit d'ailleurs, je crois qu'une des premières images, c'est un cheminot français et un train français qui emmène les déportés vers la mort, vers Auschwitz. Donc, des films comme « Nuit et brouillard », afin de respecter le serment que nous avions fait le jour même de notre libération, de rester fidèles aux valeurs qu'au-delà de nos différences, nous avions appris à partager. Je reviendrai sur ces valeurs, parce qu'on n'en parle pas assez, de tous nos acquis, comment actuellement nous vivons, mais dans une société, parfois j'ai envie de dire, et pour moi-même, nous sommes des gavés, et on ne sait pas à qui on le doit tout cela. Alors, je continue. Roger Monir écrivait et disait « Nous n'avons pas de leçons à donner. Nous disons simplement « N'oubliez pas ». Dans quelques années, aucun d'entre nous ne sera là pour témoigner. Déjà, dans notre pays, de bons esprits, entre guillemets, édulcorent la réalité du nazisme et de la collaboration. Certains nient l'existence des chambres à gaz. D'autres salissent les idéaux de la résistance. L'esprit de croisade, le racisme, l'intolérance renaissent. N'oubliez pas les valeurs reçues en héritage. C'est étrange, mais en lisant ce texte-là, tout à coup, ici, maintenant, j'ai les larmes qui me viennent aux yeux. Trop de choses, trop d'événements. Je continue, Roger Monir. Ne prêtez pas l'oreille aux falsifications, aux discours racistes, aux paroles de guerre ou d'agression. Gardez le goût du bonheur au service d'un idéal. Le goût du bonheur au service d'un idéal. Je trouve ça magnifique. Quand je pense à ces jeunes qui partent s'enrôler en Syrie et qui vont découvrir l'horreur d'ailleurs, l'horreur, l'horreur pure. Je reprends les mots de Roger Monir. Jeunes, soyez extrêmement vigilants. Toute la question est là. Comment être extrêmement vigilant? Comment analyser, comment décrypter les événements? Là, c'est moi qui parle, ce n'est plus Roger Monir. Comment se fait-il que l'on puisse se laisser entraîner, malgré soi, dans des processus qui vont être éminemment destructeurs, à la fois pour soi-même, et à la fois pour les autres, et à la fois et parfois pour tout un peuple, pour toute une population? Bon, là, je ne vais pas faire de commentaires trop appuyés. On ouvre la télévision. On prend la 1, on prend la 2, on prend la 3, on prend la 4, on prend la 5, et on regarde, on écoute, et c'est tout. Ça suffit, ça suffit. Et on réfléchit. Ce qu'il serait intéressant, par contre, c'est de voir comment, pourquoi de tels processus peuvent fonctionner. Il s'agit là d'une réflexion qui pourrait être assez profonde, assez longue. Je doute que nous ayons le temps, dans une simple interview, d'aborder un sujet aussi vaste.
Contentez-vous de l'effleurer.
Effleurons, effleurons. Par exemple, nous allons revenir à Boris Paor, par exemple, un roman réédité en libretto qui s'appelle « La villa sur le lac ». Et c'est une analyse de la soumission au pouvoir du dictateur, pouvoir hypnotique. Et puis on pourra faire un petit détour par Freud. Qu'écrivait Freud en 1924, alors que les choses étaient encore à l'état naissant? La villa sur le lac décrit la rencontre entre une jeune ouvrière, une jeune fille, toute simple. Ça se passe, c'est une histoire qui se passe au bord du lac de Garde, où Mussolini avait sa résidence, sa villa. Également au bord du lac de Garde, où eurent lieu ce que l'on appelle la République de Salo. Salo, un village, Salo, oui, oui, un village au bord du lac de Garde, où Mussolini fut, quelque sorte, assigné à résidence au moment où les nazis vinrent à son secours, puisque les alliés progressaient en Italie et l'Italie commençait à être libérée. Il y a une description toute simple de l'aubergiste, elle s'appelle Amalia, c'est une femme simple. Je suis sûre qu'Amalia, au demeurant, est une très brave femme, une femme adorable et que peut-être elle a le cœur sur la main. Et voici la discussion entre Amalia et notre héros, qui en fait n'est autre que Boris Paor. À chaque fois, elle change de nom, mais c'est lui. Alors, Amalia dit... « Vous êtes partie en 1943, dit-elle. Notre Duce habitait la villa sur le lac. Cette belle villa, vous ne vous en souvenez plus ?
Non, dit-il sèchement.
Le pauvre, un si grand homme, finir si mal ?
Et il hochait vigoureusement la tête, comme quelqu'un qui, un moment au pouvoir, se voit réduit au silence. Il se taisait. Il ne savait quelle réponse lui donner, et une certaine torpeur s'emparait de lui.
Oh ! Il en a fait de belles, lui aussi.
Elle, bien sûr, ne l'écoutait pas. Elle n'écoutait jamais. Un homme qui avait seulement voulu le bien de tous, la vilir de cette façon, même après sa mort, le pendre comme un bovin dans une boucherie, continua-t-elle.
Là aussi, cette nostalgie, ce regret du dictateur, c'est quelque chose qui est tout à fait actuel chez les jeunes. Ne parlons pas uniquement des néo-nazis. J'ai un souvenir tout récent, à une table. Il y avait un monsieur très très bien, très propre sur lui, un commandant de navire italien qui travaillait pour l'OTAN. Et c'était à la toute fin du repas, heureusement que j'avais déjà pris le dessert, parce qu'il a, tout naturellement, comme si nous étions en bonne compagnie, évoqué toutes les bonnes choses que Mussolini avait fait pour le pays, enfin toutes les bonnes choses, il n'y en avait pas beaucoup, mais il en a trouvé une, il a asséché les marais autour de Rome. Ce n'est pas Mussolini qui les a asséchés, c'était des esclaves qui faisaient travailler des sortes d'esclaves.
Alors, dans les références littéraires que vous avez citées, je pense qu'on aurait pu aussi citer la Boétie et son discours sur la servitude volontaire. Si les gens vont chercher des poujadistes, des populistes qui leur vendent des solutions un petit peu faciles, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas envie d'assumer leur liberté. Tout simplement, c'est qu'on aime bien être guidé, quand bien même ce serait par le plus grand bovin venu.
Tout à fait. Et justement, peut-être, si on a le temps, on abordera comment ça fonctionne. La séduction perverse. Mais d'abord, arrivons au pouvoir hypnotique. Avec des métaphores. La métaphore, le roman, l'imaginaire est souvent un très bon exemple qui nous fait comprendre les choses, mais on peut aussi les éclairer par des théories, par exemple par Freud, ce qu'il écrivait en 1924 dans un texte qui s'appelle « Psychologie des foules et analyse du moi ». Il a beaucoup travaillé la question de la psychologie des foules et de la soumission. Mais il y en a d'autres qui l'ont travaillé. Mais je vais revenir à Boris Paor. Boris Paor, dans La Villa sur le lac, va évoquer un ouvrage de Thomas Mann qui s'appelle Mario et le magicien. Mario et le magicien. Et donc, il décrit un magicien qui arrive dans un village, un homme assez difforme, assez grotesque, mais qui va soumettre les foules par son pouvoir hypnotique, par la force et par le fouet. Et les foules vont l'applaudir. Quelqu'un essaie de lui résister, mais lui aussi va se soumettre au pouvoir du dictateur. Et ensuite, il y a Mario qui arrive, qui lui est un jeune homme pur, un jeune homme intègre. Et lui ne se soumet pas par la force, il va se soumettre par la séduction. Et le magicien va trouver la faille qui est en Mario, son amour pour une jeune femme, et utilisant cette faille, il va réussir à soumettre également Mario. Donc la jeune Luciana est elle aussi sous le pouvoir hypnotique du dictateur, et à la fin du livre, il y a aussi de très très belles pages d'amour. La jeune Luciana conserve sur sa table de nuit un portrait du Duce et une nuit, elle se réveille totalement angoissée. Elle a l'impression que cette figure du Duce est maléfique, qu'elle l'empêche de dormir et mue par une impulsion, elle se lève, elle va jeter la figure du Duce dans le lac de Garde. Ce sont des métaphores, ce sont des images. Si je pouvais retrouver les textes de Freud en 1924, quand il écrit, je cite, « La foule produit sur l'individu isolé une impression de puissance illimitée et de danger invincible. Il est manifestement dangereux de se mettre en contradiction avec elle. Et l'on est en sécurité lorsque l'on suit l'exemple qui s'offre partout à la ronde, donc éventuellement même lorsque l'on hurle avec les loups. »
Il y a une question à laquelle je suis un petit peu resté sur ma faim, c'est très concrètement, qu'est-ce que l'œuvre de Boris Power apporte à ce combat éternel contre le totalitarisme qui est de tout temps ? Comment s'y prend-il ? Quels sont les procédés ? Il analyse ou il symbolise ou alors il raconte des histoires ? C'est plutôt des allégories ? C'est plutôt de la poésie ?
Tout est présent chez Power. Il raconte des histoires, mais ce sont souvent des histoires vraies. Elles sont à peine romancées. Il décrit les processus, mais tels que les gens vont le vivre. Je vous invite vraiment à découvrir son œuvre. Là, j'ai évoqué la Villa sur le lac qui décrit la soumission. Comment, après la mort de l'idole, l'idole perdure dans la conscience. Par exemple, dans Nécropolis, Pèlerin parmi les ombres, c'est le texte qui vraiment, le premier texte qui a été traduit en français. Il a été traduit en gros 1990-91. Il est passé quasiment inaperçu, alors que maintenant, à l'heure actuelle, il est salué à l'égal de Primo Levi par sa réflexion humaniste en même temps. En même temps, c'est une description, j'en avais lu quelques extraits, j'en avais parlé dans la série d'Histoires et Contes. C'est une description très précise, très concrète des hommes de l'état d'anéantissement, d'abêtissement, d'avilissement dans lequel ils sont réduits. Mais en même temps, c'est à chaque fois une réflexion sur qu'est-ce qui va subsister, qu'est-ce qui résiste malgré tout en l'homme. Et j'avais décrit l'exemple du Tchèque, par exemple, c'est un athlète tchèque qui sait très bien que sa vie ne sera pas sauve. Mais malgré tout, c'est un perchiste, il trouve une perche, il va avec la perche réussir un saut au-dessus des barbelés, il réussit le saut. Évidemment, il est repris, le commandant lui dit « si tu réussis une deuxième fois devant moi, tu auras la vie sauve ». Lui sait très bien ce que vaut la parole d'un commandant. Il saute une deuxième fois. Et évidemment, la parole tombe comme une sentence, un couperet. Noch einmal aufhängen. Qu'on le repende. Et la conclusion donc, de ce que va décrire Boris Power, il dit « Mais ça, c'est l'exemple de la générosité, de la pulsion généreuse de l'homme qui a par son geste, qui est à la fois un geste concret, mais à la fois un geste métaphorique, c'est-à-dire la métaphore dans une situation impossible et impensable dont on ne sortira que par la cheminée du crématoire, ce que disent d'ailleurs les gardiens, vous allez sortir, c'est vous là-bas en fumée, vous partirez en fumée. Lui, la métaphore, il va une situation impossible, il réussit quelque chose d'impossible, il répond par un acte tout aussi impossible. Un acte qui n'a aucune visée concrète, il n'a pas de projet, etc. C'est l'acte pour lui-même. La beauté de l'acte qui va valoir en elle-même et pour lui-même, mais pour les hommes, pour l'humanité. Ce qui est très intéressant chez Boris Power, c'est lui va réaffirmer une foi en l'homme. Un jour, cela fait plus de 20 ans que l'on se connaît, et chaque fois, nous sommes partis dans des discussions qui n'ont jamais de fin. La dernière, c'était il y a peu, à peine un an, j'étais à Trieste. Et pour vous montrer un peu la qualité de cet homme, qui avait 101 ans déjà, et nous avons parlé pendant 7 heures d'affilée, 7 heures, allant d'un endroit, Café San Marco, à un autre endroit, et au bout de 7 heures, c'est moi qui ai dit, mais je n'ai pas vu passer le temps. Je n'avais pas vu passer. Je croyais que ça faisait 4 heures que l'on parlait. Et donc, il y a chez cet homme une capacité de résilience qui est vraiment très forte. Et pas seulement chez lui. Parce que c'est aussi ce qui est intéressant, c'est quelque part le mystère. Par exemple, le premier mystère, c'est comment hier et aujourd'hui encore, comment un homme peut-il arriver à cette extrémité de faire subir à un autre homme quelque chose qui enlève à l'autre toute humanité, mais lui enlève aussi à lui toute humanité en retour. C'est la première question. Et la deuxième question, c'est l'autre question des limites. Comment un être humain auquel on a fait subir, qui a survécu à l'abjection, qui a survécu au pire, comment va-t-il réussir encore à vivre? Et non seulement à vivre, je ne parle pas de survivre, je parle de vivre en étant pour les autres, voilà, c'est ça l'intérêt, en étant un passeur et en apportant quelque chose aux autres, à l'humanité, à cette humanité qui est blessée. Parce qu'un homme qui commet un acte abject, c'est aussi toute l'humanité qu'il va blesser par son acte.
Dostoïevski, je suis personnellement responsable si le monde va mal. Anne-Marie, si je peux me permettre, petite question personnelle. Pourquoi vous sentez à ce point concerné par cette notion de totalitarisme, de fascisme? Est-ce que c'est une crainte que vous avez que ce fascisme n'ait pas passé, qu'il pourrait revenir l'hydre, la bête?
Comme disait Brecht. Oui, la bête immonde qui a des multiples têtes. Vous en coupez une et d'autres renaissent. J'ai dit ouvrez la télévision, lisez les journaux. Écoutez, soyez attentifs à ce qui se passe. Non seulement c'est une crainte, mais là c'est un avis personnel. Malheureusement, je suis très intuitive, très prédictive. C'est aussi mon métier. Mais je sens quelque part que l'on va dans un totalitarisme. On y va. Que chaque fois l'hydre, la tête de l'hydre renaît, mais elle ne va pas prendre le même visage, elle changera de visage, de manière à ce qu'à nous à mieux nous abuser, à nous soumettre. Et je pense en même temps qu'il y a des êtres qui, autour de moi, que je vois, que j'entends, je les entends, je les reconnais, on se reconnaît très vite, qui sont engagés justement dans cette parole, un peu comme cette parole de Roger Monir, n'oubliez pas, mais surtout ne vous laissez pas abuser, ne vous laissez pas abuser par le magicien, par le grand prestidigitateur, par celui qui vous promet monts et merveilles, par celui qui a non pas des solutions possibles, mais qui a la solution, voire la solution finale. On sait ce qu'était la solution finale. L'ennemi, celui qui va vous désigner l'ennemi. L'ennemi, il n'est pas en vous. Le djihad, qu'est-ce que c'est le... Par exemple, mais pas uniquement, pas uniquement.
Vous connaissez sans doute Montaigne avec sa fameuse phrase « Qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint ». Si individuellement nous décidons effectivement de nous faire abuser petit à petit, subrepticement, jusqu'à être persuadés que l'hydre revient, elle va arriver. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de lutter pour justement continuer, persister jusqu'au bout dans un optimisme béat pour regarder le petit coin de ciel bleu et nous dire que non, ce n'est pas le seul avenir qui s'offre à nous?
C'est une question très, très importante là, que tu es en train de poser. C'est une position philosophique, une position personnelle qui est à la fois... Parce que pour moi, les choses ne sont pas exclusives. Ce n'est pas ou cela, ou bien cela, quand il n'y a pas d'alternative ou une alternative perverse. Ce n'est pas comme cela. Pour moi, c'est cela et cela qui vont coexister et nommer les choses, et les nommer avec des mots vrais. Parce qu'au moment, on n'arrête pas de nous parler de, justement de fascisme, on traite les autres de fascisme, de nazis, de machin, de choses, et avec des mots qui ne sont plus les vrais mots. C'est devenu une tarte à la crème. On n'emploie plus, on ne sait plus employer le mot précis qui va coller à la chose. Et c'est important de nommer les choses. C'est un premier temps, c'est un premier travail. Mais une fois que les choses sont nommées, une fois que les choses sont posées, ce qui me paraît très important, c'est effectivement ce que tu dis,
de s'en désolidariser. Je disais tout à l'heure qu'un des bouquins, enfin, c'est quand, presque un peu mon livre culte, Où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi, de Christiane Singer. Elle dit entre autres à un moment donné une phrase très importante. Celui qui va se battre contre quelque chose, en même temps va apporter de l'énergie à cette chose-là. Mais justement, tout est dans la façon dont on va se positionner. Nommer les choses, oui. Mais comme le disait Roger Monir, nous n'avons pas de leçons à donner. La façon dont on se positionne par rapport à ces choses, je crois que c'est ce qui est le plus important. Et pour moi, effectivement, le ciel, il est là. Et les petits coins de ciel se retrouvent. Par exemple, dans la rencontre avec la documentariste Fabienne Isartel, dont nous n'avons pas parlé, dans la rencontre avec d'autres personnes, dans la rencontre avec Boris Pahor, intuitivement, il y a des univers qui se reconnaissent instantanément. C'est de l'instantané. On est tout de suite en phase.
En tout cas, Anne-Marie, une chose est sûre, c'est que ce devoir de mémoire est essentiel. Et je vous remercie beaucoup de vous y employer avec autant d'énergie. Et avant de nous quitter, on pourrait quand même, pour les gens qui nous écoutent, conclure en présentant le programme précis de ce qui les attend, ces fameux 7, 8 et 9 mai à Lucandiwa, autour de Boris Pahor. Mm-hmm. Est-ce que vous accepteriez de nous préciser ce qui va se passer ?
Oui, tout à fait. Alors, le 7 mai, les jeunes de la cité scolaire du Diwa, avec 4 classes qui sont engagées, il y aura en préparation, je pense, une lecture à plusieurs voix des textes choisis parmi justement les romans de Boris Pahor qui sont traduits en français, qui à la fois décrivent bien dans leur choix cette montée en puissance du totalitarisme avec le moment le plus aigu qui est le camp, et ensuite le retour à la vie. Donc il y a aussi des textes d'amour, je n'ai pas assez parlé de l'amour parce qu'il y a de très très beaux textes. Il y aura aussi un travail avec l'école de Luc à un autre niveau, puisqu'à chaque fois il faut s'adapter là où en sont les enfants. Le 8 mai, à 10h, à la bibliothèque de Lucandiwa, c'est tout près de l'école, attenant l'école, il y aura justement une lecture à plusieurs voix d'extraits choisis parmi les romans de Boris Pahor, avec à la fois les textes sur le totalitarisme, mais très concrets, et des textes sur l'amour, la femme. C'est très beau texte. À 18h, il y aura la projection du documentaire de Fabienne Isartel, dont on n'a pas eu le temps de parler, mais qui est aussi quelqu'un de particulier, une artiste, avec en introduction des mots dits par Alain Curtet, qui est un acteur qui est bien connu sur le Diwa. Les mots sont extraits comme ça, des phrases qui sont prises dans différents romans, différents textes. Donc le documentaire sera suivi d'un débat avec la salle, et puis bon, avant le documentaire il y a la commémoration à 16h30 au monument aux morts de Luc, et puis un pot d'accueil à partir de 17h, de 17h à 18h. Le 9 mai, à la librairie Mosaïque, il y aura une dédicace par Boris Pahor. Et puis peut-être l'après-midi, nous sommes invités à visiter le mémorial de Vassieu-en-Vercors par M. Estève, qui est le directeur, qui sera d'ailleurs présent au moment de la projection. Et il était important de relier en quelque sorte également cette série d'événements avec la mémoire du Vercors, la mémoire du Diwa, parce que cet événement fait sens également ici, dans ce lieu.
Anne-Marie, je vous remercie beaucoup d'être passée à la radio du Diwa pour annoncer cet événement signifiant, parce qu'effectivement, on n'est jamais à l'abri de dérapages de la société. J'aurais tendance à être optimiste, mais on est tous des petits grains de sable dans des flux historiques qui nous dépassent peut-être. ce genre d'événement nous rappelle l'importance de la vigilance, de ne pas se laisser manipuler par je ne sais quel veau d'or. À plusieurs reprises, Anne-Marie a rappelé que nous faisions concomitamment une série d'émissions que vous pouvez écouter, alternant commentaires et textes de Boris Pahor. C'est une émission qui s'appelle « D'histoire et contes ». Donc vous en aurez 4 exemplaires d'ici le 7 mai qui seront en ligne, avec donc des textes de Boris Pahor alternés avec des commentaires d'Anne-Marie. Merci Anne-Marie.
Je vous en prie. Il y avait tellement à dire, tellement et tellement à dire. Moi je ne suis que passeur.
Ceci explique cela.
Entre autres choses.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.